Chapitre 1. Assis au bord du lit, je fixe le verre d'eau posé sur la table de chevet, auquel je n'ai pas touché, et m'étonne de déceler un léger tremblement à la surface. Relevant la tête, je m'attarde sur la chemise pendue à un cintre que Juliette a préparé pour moi. Puis je regarde les rideaux qui filtrent la lumière du matin. On devine que le soleil est déjà là, violent. Et je songe qu'on n'aurait peut-être pas dû dire oui. En tout cas, moi, ça m'allait, le retranchement, le calme, après la catastrophe et le tumulte, même si c'était un faux calme comme il y a des faux plats, ça m'allait, la vie de tous les jours, même si je sais bien que la vie ne sera jamais plus normale. J'étais prêt à m'en accommoder. J'imagine qu'on ne pouvait pas refuser. La proposition partait d'un bon sentiment. Les gens tenaient tellement à nous montrer qu'ils n'oublient pas et à nous témoigner leur soutien, leur solidarité, quelque chose qui ressemble à de l'affection. Bon, ils voulaient exprimer de la colère aussi, parce que la nôtre est devenue la leur. Je comprends. De toute façon, Juliette a accepté d'emblée quand ils sont venus exposer leur idée. Ils étaient 5. Ils avaient formé un comité, mais évidemment, ils ne se lanceraient pas sans notre accord. Impossible de faire machine arrière. Elle a trouvé que ce serait bien, que c'était important. Elle a sûrement eu raison. Enfin, ce n'est sans doute pas ce qui l'a convaincue. C'est plutôt qu'elle en avait besoin, pour ne plus étouffer, pour expulser son chagrin et sa rage, pour tenter de supporter au moins quelques heures la folie d'avoir perdu un enfant. Je suis seulement vêtu du caleçon que je porte la nuit. Je pourrais me lever et pourtant je garde les pieds arrimés au sol, les mains posées à plat sur le matelas, le cou rentré dans les épaules. J'ai l'impression qu'il vaut mieux que j'attende un peu pour ne pas risquer un étourdissement. Depuis quelque temps, le matin, je ne me sens pas d'aplomb, j'ai peur de tomber. Ça me fait comme des vertiges. Il faudrait sûrement que j'en parle au médecin, mais si je le fais, il va me sortir des explications psychologiques. Et je n'ai pas envie de penser à ce qui tourne dans ma tête, à ce qui me serre le cœur. Juliette, elle, est debout depuis longtemps, je l'entends qui s'affaire à la cuisine. J'entends les bruits de tiroirs, de cuillères, de couteaux, de bols, de portes de placards. Des bruits ordinaires, et cependant, ce matin, je jurerais qu'ils sont précipités, maladroits. Je dois me tromper. Derrière les rideaux, d'autres bruits, ceux de la rue. Un camion de livraison qui s'est garé pour décharger sa marchandise, des automobilistes impatients qui klaxonnent, des habitués qui discutent à la terrasse du café d'en bas, une valise qui roule sur le trottoir, le cling-cling de la porte de la pharmacie. En semaine, nous parviennent également les cris des gamins dans la cour de récréation de l'école primaire, juste à côté. On a emménagé ici il y a 15 ans, juste après notre mariage. Je connaissais le quartier, j'y traînais quand j'avais 16-17 ans. Et Juliette, l'endroit lui a plu. Elle disait que ça ressemblait à un village. Elle disait aussi: on ne voit pas la mer, mais on entend les mouettes. On sent le vent du large, c'est ce qui compte. Elle a grandi à Pornichet. Elle était attachée à cette idée de la mer. À Saint-Nazaire, c'est pas tout à fait pareil. Je veux dire, la mer, ce n'est pas vraiment pour se baigner. Bien sûr, on a des plages, mais nos vies, elles tournent autour des chantiers navals. On est d'abord une ville ouvrière. Les stations balnéaires, c'est plus loin. Finalement, je me lève et j'aperçois aussitôt mon reflet dans le grand miroir en pied. Je contemple mes tatouages sur les avant-bras, souvenir d'une jeunesse que je croyais turbulente, mais où, au fond, je me contentais d'imiter mes copains. Je contemple aussi ma maigreur. C'est dans les gènes, il paraît. Il n'y a qu'à voir mon père. D'ailleurs, moi-même, je l'ai refilé à mes fils, cette satanée maigreur. Les collègues se moquent de moi, m'appellent le manche à balai ou la planche à pain. Pourtant, quand j'étais chaudronnier, je n'ai jamais demandé d'aide à qui que ce soit pour la manutention. J'ai du muscle. Il faut pas croire. Mais rien n'y fait, il me chambre. Enfin, il me chambrait. Maintenant, il n'ose plus trop. J'enfile un t-shirt ample, je flotte dedans. Dans la cuisine, je me dirige vers Juliette pour déposer un baiser sur sa bouche, comme tous les jours depuis plus de 15 ans. C'est devenu machinal à force, mais aucun de nous deux n'y a renoncé. Peut-être que c'est ça, être un couple. Ces gestes répétés, ces attentions particulières, ces choses qu'on ne partage avec personne d'autre. Le baiser est furtif, il n'est pas accompagné de tendresse, mais qu'importe, il existe. Elle dit « Tu as bien dormi ?» Elle pose la question par réflexe, par habitude. Elle sait que non, on n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. On connaît par cœur la respiration de l'autre quand il ne dort pas. Et puis on tournait et on virait dans le lit. On soufflait fort parce qu'on était agacé par cette insomnie. On a véritablement rendu les armes qu'aux premières lueurs du jour. Et moi je réponds « bof », sans détailler, sans m'attarder. Elle ne relève pas. On ne va pas discuter de l'anxiété, de la tristesse et des idées noires qui nous privent de repos. Elle dit « Tu peux aller réveiller Enzo ? Je fais griller le pain. » Je pousse la porte lentement. La pièce est plongée dans l'obscurité. L'ouverture vient jeter un peu de lumière sur la moquette. Mon fils dort d'un sommeil profond, je le sais. On apprend aussi à reconnaître la profondeur du sommeil de ses enfants. Et Enzo a toujours été un gros dormeur. C'est un calvaire de le sortir de son lit aux aurores. Je préférerais le laisser dans le confort ouaté des draps. Il paraît sans défense. Mais je trouve surtout qu'il n'est atteint par rien, blessé par rien. Et ça me semble magnifique. Je m'approche sans bruit, me penche sur lui. Et je ne bouge plus. Dans l'enfance, je me souviens, il y avait des gamins qui pleuraient, criaient, gambadaient, au petit bonheur la chance, dans les jambes de ma mère. C'était ceux qu'elle gardait. Elle était nourrice. On habitait au nord de la ville, le hameau des Acacias, un lotissement sorti de terre à peu près au moment de ma naissance. Il y avait beaucoup de jeunes couples, les femmes travaillaient, elles lui confiaient leurs bambins. Elle a pris sa retraite l'an dernier, après avoir expliqué qu'elle était bien contente d'arrêter parce qu'à la longue, il l'avait épuisée, tous ses gosses. Mais je crois que son boulot lui manque quand même un peu. C'était pour moi comme des frères et sœurs de passage. Ils restaient 2 ou 3 ans, je m'attachais à certains d'entre eux. Alors que je grandissais, ils avaient toujours le même âge. Quand j'ai eu 10 ou 11 ans, ils m'ont saoulé, ils faisaient du bruit, ils prenaient de la place, ils accaparaient ma mère. Et puis ça m'est passé, j'ai recommencé à les aimer. C'était une distraction. La maison ressemblait à un campement. Je n'ai jamais imaginé de ne pas avoir d'enfant moi-même. D'ailleurs, l'appartement, on l'a pris avec 3 chambres dès le départ, on savait ce qu'on voulait. Contempler Enzo dans son sommeil pourrait me faire venir des larmes. Surtout que son grand frère me manque. Il me manque à me taper la tête contre les murs. Quand je reviens, je sens l'odeur du pain grillé. Juliette ne s'étonne pas de me voir me pointer seule. Tu n'as pas osé le réveiller, pas vrai ? Je mens. Si, si, je l'ai appelé. Mais tu sais comme il est. Elle lève les yeux au ciel, semblant me signifier « Sois un père pour une fois. Et moi, j'ai besoin de pouvoir compter sur toi. » Mais bien sûr, elle ne le dit pas. Ce n'est pas le jour pour une prise de bec. Je mets en marche la machine à expresso qu'on a achetée il y a 2 mois chez Lidl, en remplacement de la vieille qui avait rendu l'âme. Et je fais couler nos 2 cafés, court pour Juliette, allongé pour moi. C'est ma part du boulot, le matin, comme s'il s'agissait d'un truc d'homme ou de maître de maison. Oui, c'est un peu ridicule, c'est ainsi. Juliette s'est déjà installée à table. Elle beurre ses tranches de baguette, ce geste aussi je le connais par cœur. À la météo, ils ont annoncé qu'il allait faire 29. C'est vraiment n'importe quoi ces températures. Non mais t'imagines, 29 degrés, fin mai, par chez nous.